Nous poursuivons, Mélanie Chalandon, avec notre émission spéciale Brexit. L'Europe est-elle au pied du mur ?
Absolument, Anne Fauquemberg, merci beaucoup. Et pour poursuivre cette discussion, nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle invitée, Ana Navarro-Pedro. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste correspondante à Paris de l'hebdomadaire portugais Visao. Et à vos côtés, deux invités qu'on a déjà entendus depuis le début de cette édition. Fabien Cazenave, bonsoir à nouveau. Vous êtes porte-parole de l'UEF France, l'Union des fédéralistes européens, une organisation qui milite pour la construction européenne et notamment une Europe fédérale. Et puis Nicolas Dungan, vous êtes, je rappelle, conseiller à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, et chercheur à l'Atlantic Council à Washington. Et puis c'est une émission en partenariat avec le magazine L'Obs ce soir et nous sommes avec son rédacteur en chef, Sylvain Courage, bonsoir.
Bonsoir.
Et ce numéro spécial de L'Obs cette semaine, comment réparer l'Europe ? On y trouve notamment un plaidoyer de Daniel Cohn-Bendit pour le saut fédéral, l'appel d'Uwe-Vedrine à l'inverse pour faire une pause dans la construction européenne et puis un numéro avec une dimension très prospective aussi, un dossier complet sur les chantiers à venir et à régler par l'Union européenne, une Union européenne à 27 désormais.
Oui, on a essayé de se projeter au-delà du résultat du Brexit en considérant que de toute façon les concessions qui avaient été obtenues préalablement par Cameron mettaient déjà à mal le projet et le fonctionnement de l'Europe, donc il y avait nécessité de la réparer, de la relancer quoi qu'il arrive. C'est encore plus vrai maintenant que le résultat est tombé. On a vu François Hollande qui a fait une annonce, mais effectivement un peu timide. On a l'impression qu'il souhaite être pragmatique et que l'Europe fasse la preuve de son efficacité en s'attaquant à des dossiers aussi compliqués que ceux des migrants ou de la relance économique. Il voudrait revenir avec ses preuves, mais ça n'obère pas la question de fond, c'est-à-dire est-ce que il faut plus d'Europe ? C'est la proposition des fédéralistes, c'est-à-dire si ça n'a pas marché, c'est parce qu'on n'a pas été assez loin, c'est parce qu'on n'a pas appliqué le projet des pères fondateurs. Et puis les gens qui sont plus pour une Europe de une confédération de nations, hein, on peut effectivement rattacher Uwe-Vedrine à ce courant, c'est-à-dire ceux qui disent bah les peuples ne veulent pas de cette Europe technocratique, il faut marquer une pause, remettre tout à plat et repartir dans le dialogue des nations.
Eh bien, c'est précisément ce dont on va discuter jusqu'à 19h. Vous restez à nos côtés pour interroger nos invités. Ana Navarro-Pedro, c'est donc un coup dur pour l'Union européenne, un des plus graves de toute son histoire, selon vous ?
Sûrement, mais peut-être aussi la possibilité d'un nouveau départ et de mettre à plat tout ce qui ne marche plus dans cette Europe qui est rejetée de partout et dont les élites, dont ceux qui la dirigent ne voient pas les conséquences au niveau des populations. Il y a une énorme bouffonnerie dans le fait que le Parlement européen, qu'à Bruxelles, on soit stupéfait du résultat du référendum en Angleterre. On a eu 2 ans pour prévoir, c'était oui ou non. Donc on a eu 2 ans pour prévoir les 2 cas de figure et maintenant c'est au pied du mur qu'on est complètement stupéfait du résultat. Mais où est la compétence de ceux qui nous gouvernent ? Et c'est justement cette incompétence, ce manque de prévision politique, ce manque de vision politique que les peuples européens reprochent à ces mêmes institutions européennes. Donc là, maintenant, on a une chance, peut-être, de changer quelque chose et de le faire bien, mais on n'a pas pris le temps d'y penser non plus. Donc ça, c'est grave.
Vous faites partie ce soir de ceux qui sont peut-être plus optimistes et qui voient ce vote moins comme une catastrophe et peut-être plus comme une chance de redonner du sens, de se reposer les bonnes questions.
C'est la seule façon de le voir. Vous savez, Lady Macbeth, à un moment donné, elle a tué le roi et elle dit ce qui est fait ne peut être défait. Là, déjà, on commence à dire peut-être qu'on va défaire le référendum en Angleterre. Il y a déjà, vous savez, un mouvement sur Internet pour une pétition, pour obtenir 100 000 signatures, pour revenir au Parlement et demander un nouveau référendum. Le Yes avait tellement de succès sur cette pétition que le site a bugué et il a dû être fermé. Il y a de fortes tensions au sein même de l'Angleterre en ce moment par rapport à ces résultats. Et j'ai un pincement au cœur pour tous les jeunes, qui voyaient vraiment leur avenir en Europe, qui ont voté pour rester et qui voient leur avenir bloqué maintenant. Mais on doit aussi se poser les questions. Pourquoi ? Comment on est arrivé là ? Et on ne l'analyse pas suffisamment, je crois, parce que c'est à partir du pourquoi qu'on peut trouver des solutions aussi pour l'avenir en Europe.
Fabien Cazenave, votre avis sur l'hypocrisie dont parlait Ana Navarro-Pedro, l'hypocrisie des dirigeants européens qui sont donc ce soir, depuis ce matin, plutôt stupéfaits, alors qu'effectivement c'est un scénario auquel on pouvait s'attendre de longue date.
Je vous avoue que quand le référendum a été proposé par David Cameron, moi j'ai tout de suite pensé qu'il y aurait un Brexit, parce que les conditions étaient faites pour que les Britanniques votent non. Premièrement, parce que on a une couverture de ce qui se passe dans les affaires européennes qui est très dure au Royaume-Uni. Alors, c'est bien l'objectivité et la critique sur ce qui se passe dans les affaires politiques européennes, mais en même temps, à un moment donné, il y avait aussi un déferlement de petites histoires et un climat qui s'était installé qui était assez dur. Deuxièmement, il y avait aussi un souci, c'est que quand concrètement on appelait les Britanniques à voter pour savoir s'ils étaient une puissance moyenne ou pas. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes une puissance moyenne et à ce moment-là, bah oui, il faut rester dans l'Union européenne, ou est-ce que vous êtes un grand pays encore? Et le Royaume-Uni comme la France sont deux pays qui ont encore cette culture des grands, de ceux qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. On nous enseigne ça très petit à l'école, alors que peut-être que dans d'autres pays européens un peu plus petits, on a un peu conscience de la taille par rapport aux géants mondiaux. Cependant, comme vous l'avez dit, il y a effectivement c'est pas une hypocrisie, c'est une incompétence.
C'est le mot que j'ai utilisé.
Voilà, c'est une vraie incompétence d'être incapable de proposer aujourd'hui un vrai projet alternatif. En tous les cas, François Hollande l'a déjà proposé, son projet. Il y a rien de nouveau qui va être proposé. D'ailleurs, on peut être très critique sur des options qui vont être techniques avec une fédéralisation. Alors, ils appellent fédéralisation. Simplement, c'est pas une vraie fédéralisation. Vous avez parlé de confédération. C'est plutôt une confédéralisation de la zone euro, c'est-à-dire qu'on va mettre un mini conseil européen des pays de la zone euro, avec peut-être un ministre, le président de l'Eurogroupe qui va devenir le ministre des Finances officiellement de ce conseil, qui sera intégré au sein de la Commission, mais qui n'aura aucun pouvoir par rapport au chef d'État et de gouvernement. Et puis, concrètement, on va encore installer une institution de plus. Ça devient totalement illisible, alors que je pense que les citoyens européens ont envie d'un projet alternatif. Et ceux qui proposent un projet alternatif, malheureusement pour le moment, ce sont les eurosceptiques, c'est ceux qui veulent détruire l'Europe.
Et ce projet que vous décrivez, qui pourrait s'apparenter à une sorte d'Europe à deux vitesses, avec un noyau plus intégré, sur l'eurozone par exemple, avec un budget fédéral peut-être, et puis une Europe plus périphérique qui participerait peut-être que sur les questions de marché économique, est-ce que c'est un projet en soi, Nicolas Ongan, qu'est-ce que vous en pensez ?
Tout à fait, et tout ce qu'on vient de décrire, c'est la raison pour laquelle les Britanniques ont dit non. Le désir même du gouvernement britannique a été de s'éloigner de cette intégration accrue. Et il faut pas. Cameron a fait une série d'erreurs, c'est clair. D'abord, le référendum est très rare en Grande-Bretagne. Ça n'a été utilisé que trois fois en 1975. Ça ne s'inscrit pas dans la Constitution parce que la Constitution n'est pas écrite. C'est le Parlement qui est souverain et c'est le Parlement qui décide. Et donc, ce référendum, l'idée d'un référendum est contraire aux mœurs politiques en Grande-Bretagne.
Néanmoins, ce référendum a eu lieu.
Il a eu lieu, mais il a provoqué une réponse qui est peut-être trop extrême par rapport à d'autres formes de décision. Alors, puisqu'elle a eu lieu, le fait est qu'aussi Cameron avait négocié déjà une sorte de mini-Brexit. Et donc, de toute manière, l'idée d'une intégration... Et il y a d'autres pays dans l'Union européenne qui, clairement, ne veulent pas être dans le noyau dur. Il faut les reconnaître, il faut leur donner leur rôle et il faut leur donner leur légitimité. Et jusqu'ici, c'est un discours qu'on n'a pas entendu de Bruxelles ni des dirigeants nationaux.
Vous voulez dire que une des leçons ce soir à tirer pourrait être de commencer à penser à accorder un régime tel que Cameron l'avait négocié
il faut changer l'architecture de l'Union européenne, c'est tout. Vous évoquiez les pères fondateurs, etc. Ce qui est caractéristique des pères fondateurs, c'était pas leur idéalisme, c'était leur pragmatisme. Ils ont commencé par le charbon et l'acier. Le général de Gaulle, quand il a refusé l'entrée de la Grande-Bretagne en 1963 et à nouveau en 1967, a fait une explication extrêmement respectueuse de grands louanges de la Grande-Bretagne, mais éminemment pratique et très économique, très, très ancré dans ce que devait être le marché commun. Alors, c'est pas la peine de commencer à dire, oh, il faut plus de fédéralisme, il faut plus de cette idée-ci ou de cette philosophie-là. Il faut que l'Union européenne soit un truc qui marche. Et à ce moment-là, cela aura le respect des citoyens. Il faut faire des choses que d'autres ne peuvent pas, sauf par la souveraineté partagée. Et pour le reste, il faut respecter la subsidiarité.
Une question de Sylvain Courage.
Monsieur Duncan, est-ce que le Conseil des ministres européens va pas, au contraire, être un peu aveuglé par la déception et la crainte d'une contagion, tenter d'être très sévère avec les Britanniques et de les mettre en marge plutôt que de leur accorder ce statut pragmatique que vous décrivez?
Oui, tout à fait. Et ce qui a été évoqué, c'est incompétence, c'est aveuglement, c'est le déni, c'est l'idée que nous sommes les héritiers d'un certain idéal, et donc il faut poursuivre cet idéal coûte que coûte. Mais les peuples ont parlé. Donc en fait, il n'y a pas de raison de ne pas les écouter. Et il faut rester pratique. Alors, l'autre phénomène auquel M. Cazeneuve a fait référence, c'est que c'est le Conseil européen qui, en fait, a pris toutes les décisions depuis la crise grecque, depuis la crise de l'Eurozone, dans des réunions qui durent toute la nuit. Et c'est les chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent. Ce n'est absolument pas comme ça que le fonctionnement de l'Union européenne a été conçu, ni le fonctionnement plus sophistiqué, plus équilibré, après le traité de Lisbonne.
Anna Navarro-Pedro, comment est-ce qu'on peut prendre en compte ce soir, à l'avenir, cette opinion eurosceptique qui s'est exprimée par les Britanniques, mais qui résonne dans tout le reste de l'Europe?
Elle résonne, elle ne pourra être réduite à sa proportion que si effectivement il y a une volonté politique qui se manifeste au niveau des gouvernements des pays membres de l'Union européenne et qu'elle se manifeste à travers Bruxelles, notre décision commune. S'il y a des
tergiversations.
Merci. S'il y a des hésitations, si effectivement on commence à percevoir que tout ce qu'on va faire c'est juste rafistoler ce qui existe et qui déplaît aux populations européennes, effectivement, je pense qu'il y a une avenue un boulevard devant ces mouvements populistes. Et il faut dire aussi autre chose. En Angleterre, une des bases, il y a eu tellement de mensonges dits publiquement. Un petit exemple, Farage ce matin disait, il avait promis pendant la campagne, 350 millions que nous payons chaque semaine à l'Union européenne iront directement au service, à la sécurité sociale anglaise. Eh bien, ce matin déjà à la télé, ce matin, il disait, ah, ça sera peut-être pas comme ça, l'argent n'ira pas vraiment à la sécurité sociale anglaise, parce qu'il ne paye pas 350 millions, mais bon, ça c'est une autre histoire, il paye beaucoup moins. Mais si effectivement, on continue à maintenir des mensonges, à permettre que on continue à utiliser l'Union européenne comme un bouc émissaire de tous les défauts et toutes les incompétences des gouvernements nationaux, si on continue à utiliser l'arrivée d'étrangers sur notre territoire comme une excuse pour les problèmes économiques de chômage, et si on continue à ne pas observer quelque chose en Angleterre, une bonne partie du vote a été motivée par une population pauvre. On nous dit depuis très longtemps que les réformes économiques qui ont été faites en Angleterre sont le must. Sont ces réformes-là dont on a besoin d'un capitalisme ultralibéral, déréglé, sans imposition de sociale ou de cotisations sociales, etc. Et c'est celui-là qu'il nous faut pour avoir de bons indicateurs économiques et une économie qui marche. L'Angleterre a certes de bons indicateurs économiques, peut-être meilleurs qu'en Europe, mais, dans le reste de l'Europe, mais il y a une pauvreté grandissante et c'est cette pauvreté qui a trouvé un bouc émissaire dans l'Union européenne. Ils en seront pour leurs frais beaucoup plus tard, très bientôt, parce que ce n'est pas vrai non plus. Il y a des choix économiques qui ont été faits et qui sont imposés à toute l'Europe, qui sont en train d'appauvrir toutes les populations de l'Europe et ça se paye et justement, ça se payera à travers un vote populiste.
Fabien Cazeneuve.
En fait, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est effectivement, il y a eu plein d'appels, que ça soit chez les fédéralistes ou non, parce que je peux mettre une troisième catégorie, il n'y a pas que les nationalistes et les fédéralistes, il y a aussi les pro-européens que j'appelle mous, qui sont sur cet entre-deux européen, et on va essayer de faire un pas dans une direction, tout en maintenant l'autorité des nations, voilà.
Justement, Fabien Cazeneuve, est-ce que c'est pas cette ambiguïté où, avec une sorte de fédéralisme qui ne disait pas toujours son nom, une volonté de toujours plus d'intégration et en même temps, comme vous le dites, un pied qui reste bien ancré dans la souveraineté nationale. Cette ambiguïté-là qui a été, qui sera fatale à l'Europe.
Tout à fait. Il y avait Olivier Ferrand qui avait sorti un livre, Olivier Ferrand, l'ancien président de Terra Nova, qui est décédé alors qu'il était devenu député lors d'un footing, qui avait écrit un livre très très intéressant sur l'Europe contre l'Europe. Et en fait, il démontrait bien dans ce livre que cette méthode des petits pas, qui était la méthode Jean Monnet, qui était juste après l'arrêt lié à l'Europe de la défense qui n'avait pas pu avoir lieu suite au vote négatif du Parlement français. Et donc, on était passé par l'économie, il fallait être pragmatique. Donc, on a fait des petits pas au fur et à mesure pour peut-être ne pas trop chatouiller ce nationalisme qui était peut-être encore présent en Europe au début des années 50 et 60. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. C'est ce qui nous bloque. Je prenais l'exemple de la Grèce, mais on pourrait prendre d'autres exemples sur comment l'Europe fonctionne aujourd'hui. Même, vous voyez bien, par exemple, sur l'après-traité de portant constitution pour l'Europe en 2005, les Français ont voté non, les Hollandais ont voté non, les Espagnols avaient voté oui, les Luxembourgeois avaient voté oui. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a tout arrêté. Et ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui ont repris en main en disant « Attention, les peuples, ils ont peur ». Ben non, les peuples, ils se sont exprimés, mais il fallait leur permettre de s'exprimer en entier. Et d'ailleurs, ce serait très intéressant que nos responsables politiques, quand ils parlent de référendum, donner la parole au peuple. Moi, j'aimerais bien qu'on donne la parole au peuple européen avec un vrai référendum partout en Europe, posé avec la même question et où on tienne compte du résultat final en fonction de la majorité des Européens. Pourquoi est-ce que c'est important ? Je vais vous prendre un exemple australien. L'Australie a failli ne jamais exister parce qu'à chaque fois que le Parlement britannique leur disait « Bon, bah, on vous laisse faire votre référendum sur votre indépendance », c'était chaque État qui s'exprimait. Et l'État le plus riche, la Nouvelle-Galles du Sud, disait « Bah non, moi, à chaque fois, il disait « Bah non, ça nous arrange de garder cet état de fait, on est les plus riches, on est les plus forts au sein de l'Australie, donc on va garder ça ». Finalement, il a fallu que ce soit le Parlement britannique qui donne l'indépendance à l'Australie, sinon on n'aurait jamais vu ça. Tout ça pour dire que, à force de faire des référendums nationaux, pas au même moment, à chacun son rythme, ben on donne l'avantage justement à l'approche nationaliste de cette question. Et résultat des courses, on perd de vue la question plus globale sur la construction de l'Europe. Attention, je ne dis pas qu'un référendum européen voudrait dire que l'Europe fédérale gagnerait automatiquement. J'ai bien conscience qu'aujourd'hui, on a une grande faiblesse, notamment chez nos dirigeants, pour justement porter cette vision et cet idéal.
Alain Navarro-Bedreau, je vous voyais sourire sur la fin des propos de Fabien Cazenave.
Oui, et puis autre chose aussi, il ne faut pas oublier des référendums, on en a fait en Europe, vous en savez quelque chose en France, et les institutions européennes et vos gouvernants, les gouvernements eux-mêmes se sont, excusez-moi, mais assis dessus. Donc, ce manque de respect à la Grèce en sait quelque chose, toute l'Europe a vu ce qui est arrivé à la Grèce, il y a un an, un référendum, et puis ensuite obligé de faire le contraire de ce que le peuple avait demandé. Les pressions qui ont été exercées depuis longue date sur l'Irlande, qui ne votait pas de la bonne façon, toute l'Europe défilait, disait maintenant il faut voter comme on vous a dit de voter. On refait le référendum et l'Irlande vote comme on lui a dit de voter. Mais écoutez, arrive à la fin, on se dit, mais qu'est-ce que vaut notre vote dans cette Europe-là ?
Il faut dire au moins que le vote des Britanniques, a priori, devrait être respecté. L'idée de cette émission ce soir, c'est aussi de s'interroger sur les nouveaux rapports de force au sein de l'Europe. Est-ce que ce soir, c'est l'heure de vérité pour le fameux couple franco-allemand, Nicolas Dengen, mais aussi une occasion pour la France de reprendre un petit peu de leadership ce matin. François Hollande a eu un discours très, très volontariste sur l'Europe.
Effectivement, et on ne peut pas, pour reprendre les propos de nos collègues, on ne peut pas faire des référendums tout le temps. Et en plus, on sait que les référendums, c'est à peu près la plus mauvaise représentation de la démocratie, parce que les gens ont tendance à voter pour autre chose que la question posée par le référendum. Donc, il faut que, comme vous dites, que le fonctionnement et le leadership de l'Union européenne produisent des résultats concrets, attendus par les peuples, et notamment les résultats économiques, parce que ce problème de pauvreté et de populisme, c'est tout à fait lié. C'est ce qu'on voit avec Trump aux États-Unis aussi. C'est inacceptable de laisser les systèmes économiques non gérés et non régulés, et non productif. Donc, le couple franco-allemand, il n'y a pas d'autre choix. Mais il faut que le couple franco-allemand prenne des décisions et propose des formules qui soit éminemment pratique et auquel les autres peuvent adhérer. Et c'est pour cela qu'il faut tenir compte, comme nous disons plusieurs fois depuis le début de cette émission, il faut tenir compte du fait que le noyau, que tout le monde qui est autour du noyau dur, la périphérie dont vous avez parlé, ne veut pas entrer dans le noyau dur. Il faut faire avec les réalités qui existent chez les peuples et chez les gouvernements, chez des cultures différentes, des géographies différentes, des histoires différentes. Tous ces gens veulent rester ensemble. Tous ces gens partagent et toutes ces sociétés partagent pas mal des mêmes valeurs, mais ce ne sont pas des gens identiques. C'est exactement ce que disait le général de Gaulle. Donc il faut trouver une forme de fédéralisme qui bénéficie à tout le monde, mais qui impose le moins de choses possible et qui laisse le plus de liberté possible par un système de subsidiarité.
Une question de Sylvain Courage.
Ce que vous décrivez, ça passe par une renégociation des traités, forcément. Est-ce qu'il faut...
Non, je pense que ça passe par le... ce qui n'a pas été dans les traités, pour reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'était que ce soit le Conseil européen, dans un mode de crise, qui prenne toutes les décisions. Je crois qu'il faut respecter les traités, d'abord, et que le fonctionnement reprenne d'une façon plus régulière, plus efficace, etc. Puis, il faut effectivement avoir une nouvelle vision qui tienne compte des réalités, et dans ce cas-là, il faudra presque certainement renégocier les traités pour que l'union toujours plus proche, etc., ne soit pas imposée à ceux qui ne le veulent pas, et qu'on sorte de cette chimère qui est de dire que nous qui sommes dans le noyau dur, tout le monde veut être comme nous. C'est pas le cas. Et ce n'était pas le cas avec la Grande-Bretagne, c'est pas le cas avec le Danemark. Et plus on essaye de... Plus on a cette illusion que les autres qui sont dans cette périphérie, qui est parfaitement européenne, veulent faire partie du noyau dur, plus on les exclut. Parce que plus on leur dit, alors vous serez un jour des citoyens européens de première catégorie comme nous, et on vous attend. Bon, alors, mais s'ils ne veulent jamais être dans ce cas-là, si par exemple la Grande-Bretagne veut toujours garder la livre, il faut respecter les réalités qui existent et trouver des structures qui permettent de faire la grande famille européenne. Le Conseil de l'Europe, c'est ça. Le Conseil de l'Europe, c'est le moins d'Europe possible, mais le Conseil de l'Europe n'a pas de fonctionnement. L'Union européenne, c'est un stade intermédiaire, et le noyau dur de l'Eurozone, c'est le noyau dur.
Fabien Cazenave, l'Europe souffre d'une croyance selon laquelle toute l'Europe voudrait profondément être fédérale.
Non, en fait, il faut arrêter d'ailleurs avec le mot fédéralisme, parce que j'ai beau être fédéraliste, à un moment donné, je sais très bien que c'est un mot qui est un peu compliqué en France, parce qu'on y met une notion de centralisme, d'ailleurs, comme si la France allait disparaître du jour au lendemain si l'Europe était fédérale, alors que pas du tout, c'est simplement que la France serait à un niveau administratif, tout comme l'Aquitaine, l'Alsace, et il me semble pas...
On y voit surtout un transfert de souveraineté.
Mais on en a besoin du transfert de souveraineté. Parce que d'un point de vue de défense, si demain Vladimir Poutine attaque nos alliés en Estonie ou en Lituanie, je suis pas sûr qu'on ait la capacité militaire à pouvoir agir, ne serait-ce que pour transporter nos chars Leclerc jusque là-bas. Et on l'a bien vu par exemple au Mali. Sans le concours des avions belges, danois, allemands et compagnie, on n'aurait pas pu transporter nos troupes qui, une fois qu'ils étaient sur le terrain, ont pu faire reculer les islamistes. Mais sans ça, on n'aurait pas pu, et on aurait eu Bamako qui aurait été sous le joug de l'ACMI. Donc on a besoin de l'Europe. Pas surtout, évidemment, sur la courbure du concombre, non, on n'a pas besoin d'Europe. Par contre, en attendant, sur les dossiers de défense, de diplomatie, ne serait-ce que pour faire un plan Marshall. Par exemple, sur la Grèce, on revient toujours sur cet exemple-là. Si au moment de la crise grecque, on a découvert la crise grecque, on avait dit « la Grèce n'est plus votre interlocuteur, c'est l'Europe avec les eurobonds, avec la surface financière de, il y avait plus entre guillemets de soucis grecs. Les spéculateurs n'auraient pas pu jouer comme ils l'ont fait pendant des mois. Je dis pas que ça aurait réglé tous les problèmes, mais en tous les cas, on aurait eu une solution. Donc vous voyez, appelez-moi ça l'Europe fédérale, une république européenne, l'Europe politique. En tous les cas, il y a un besoin d'Europe sur plein de dossiers, pas sur tout. Mais en attendant...
Mais l'Allemagne ne voulait pas de ce fédéralisme. Et l'Allemagne, oui, c'est le pays fondateur. Enfin,
c'est pas l'Allemagne. Pour être tout à fait précis, c'est Angela Merkel qui, dans un discours au collège de Bruges, qui est chancelière allemande et qui a toujours eu une vision d'Europe des États. Et là, pour le coup, elle rejoint tout à fait les Nicolas Sarkozy ou François Hollande qui ont aussi cette vision d'Europe des États où le concert des nations discute entre eux et puis derrière prennent les bonnes décisions parce que ce sont des gens éclairés.
Et pour les pays baltiques, je crois qu'ils comptent un peu plus sur l'OTAN que sur l'Union européenne.
Oui, de toute façon, rappelons peut-être que l'Angleterre a été le grand obstacle à la constitution d'une défense européenne, si tant est qu'il y avait vraiment une envie d'en constituer une, mais l'Angleterre a toujours freiné des quatre fers pour l'empêcher d'exister.
Est-ce que son départ, justement, Ana Navarro-Pedro, va pouvoir permettre de peut-être relancer l'Europe sur un projet de défense, par exemple, mais aussi sur des questions nouvelles, comme la sécurité, la lutte contre le terrorisme, etc.
Ça pourrait être l'occasion, ça pourrait être l'un des vecteurs, pas le seul, mais le problème de l'architecture institutionnelle de l'Europe demeure et il ne sera pas facile de régler parce qu'il y a d'autres crises politiques qui viennent se gréver dessus. On a une césure entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, c'est évident et elle sera très difficilement dépassable, on peut dire ça en français. Et on a maintenant une crise aussi entre l'Europe occidentale et l'Europe de l'Est. On commence à voir des rapprochements entre la Pologne et la Hongrie, on commence à voir des problèmes vraiment très nets entre ces deux Europes-là, en plus avec le Brexit maintenant. Donc ce sera très compliqué, mais pourquoi pas? Le problème, c'est toujours dans la guerre, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Comment constituer une défense européenne quand on est vraiment dans la réduction des budgets?
Sur la question de la défense,
je peux vous dire pourquoi pas. C'est parce que la Grande-Bretagne représente la moitié de la défense européenne.
Avec la France.
Ouais, voilà. Donc la césure est déjà là. Vous pouvez pas et on n'attend pas les chars Leclerc sur la ligne Maginot.
Oui, mais c'est ce que j'ai dit, c'est les investissements qu'il faudrait faire aussi.
Ça, c'est,
la Grande-Bretagne avait effectivement
une génération.
Ouais. Des moyens, mais c'était aussi le pays qui refusait un commandement centralisé et une armée vraiment européenne.
Oui, parce qu'il y a l'OTAN.
Mais à un moment donné,
ça c'est un point de vue américain et c'est un peu
et britannique.
Mais c'est peut-être pas le point de vue de tous les Européens qui peut-être certains comme moi auraient souhaité une défense européenne sans être dépendante de l'OTAN.
Très bien
Cazenave.
On voit bien justement sur ce débat qu'on vient d'entendre que justement il y a toujours le problème, c'est-à-dire que il n'y a pas d'institution politique forte pour pouvoir faire des choix fort. À un moment donné, en France, par exemple, si on décide de soutenir notre armée ou de ne pas soutenir notre armée, c'est lié à des élections. Ça, on n'a pas ça au niveau européen. On n'a pas d'institution suffisamment forte. Un gouvernement, tout simplement, responsable devant un Parlement européen élu directement par les citoyens, ça nous permettrait de faire ce genre de choix.
Ces institutions très fortes, Fabien Cazenave, est-ce qu'elles ne susciteraient pas encore plus de rejet de l'Europe de la part des peuples?
Excusez-moi, il me semble pas. Il y a aussi un rejet du gouvernement français, et pour autant, on n'a pas pour autant la fin de la France qui s'exprime sous prétexte qu'il y a beaucoup de gens qui sont en désaccord avec le gouvernement Valls actuel. Donc ça, à un moment donné, justement, ça permettra de casser le lien entre c'est l'Europe ou c'est pas l'Europe. Il faut à un moment donné dire il y a une politique de gauche, de droite, écologiste. Militariste, je ne sais pas, mais en tous les cas qu'il soit décidé par les citoyens par le biais d'élections démocratiques.
Sylvain Courage.
Oui, il va y avoir deux campagnes électorales très importantes en 2017 en France et en Allemagne. Est-ce que ça peut être un frein à la prise de décision au sein du couple franco-allemand?
Ana Navarro-Pedro, peut-être?
Ah, oui, je pense qu'effectivement les vieux réflexes d'utiliser l'Europe comme bouc émissaire, ce que les deux pays ont fait abondamment dans le passé, vont ressurgir au moment des campagnes électorales. Et puis pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être une Europe de la défense pourrait être un relancement, mais je pense qu'une Europe sociale, c'est peut-être ce que les gens veulent le plus, une protection sociale. Même les Anglais en demandent, ceux qui n'en ont plus avec ces réformes dont on nous dit qu'elles sont merveilleuses.
Eh bien, merci beaucoup Ana Navarro-Pedro pour ces paroles de la fin. Merci beaucoup à nos invités. Fabien Cazenave, je rappelle, porte-parole de l'UEF France, l'Union des fédéralistes européens. On peut vous lire notamment sur votre blog, Fabien l'Européen. Nicolas Zengan, merci également. Je rappelle, chercheur à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Vous êtes également administrateur de la Chatham House Foundation, un think tank indépendant basé à Londres. Et donc merci à vous, Ana Navarro-Pedro, journaliste correspondante à Paris, de l'hebdomadaire portugais Visao. Je ne vous ai pas d'ailleurs demandé comment, au Portugal, on avait pris le Brexit en deux mots.
C'est notre plus vieux allié, on est un peu triste au Portugal.
Et puis merci beaucoup à vous Sylvain Courage d'avoir participé à cette discussion. Je rappelle le numéro spécial de l'Obs en kiosque cette semaine, Comment réparer l'Europe, un dossier très complet sur les chantiers qui attendent l'Union européenne, analyse notamment de Daniel Cohn-Bendit, Hubert Védrine et beaucoup d'autres. Merci beaucoup à toute l'équipe du Grain à Moudre, Cyril Baer, Fanny Richer, Céline Leclerc, Tanguy Omri et Antoine Dulster. Merci à vous d'avoir suivi cette édition spéciale 18-19 sur France Culture. À la réalisation ce soir, Jean-Christophe Francis. À la prise de son, Jean-Guilain Meige. Lundi, vous retrouverez Hervé Gardette.